La chronique éthique de Blandine Richard en partenariat avec l'Institut catholique de Toulouse.
Bonjour. Alors que nous venons d'aborder la question de l'acceptabilité des différentes techniques d'implant pour augmenter le corps humain, nous voilà rattrapés par l'actualité et le probable scandale des implants médicaux. La question, si elle peut rejoindre nos débats précédents, s'en éloigne néanmoins. Il n'est pas question d'augmenter le corps humain, mais simplement de le réparer grâce à des dispositifs implantés dans l'organisme. En quoi cette affaire nous interroge-t-elle d'un point de vue éthique ? Au vu des éléments révélés par l'enquête journalistique, plusieurs critiques peuvent être formulées au regard des pratiques dénoncées, illustrant la mise en danger de la santé des personnes. Si l'on part du principe éthique, que l'on ne doit pas nuire à autrui, ces agissements, s'ils s'avéraient exacts, seraient en parfaite contradiction avec cet impératif. Qu'il s'agisse des industriels, peu scrupuleux, n'hésitant pas à mettre sur le marché des produits dangereux pour les personnes, ou des pouvoirs publics qui ne parviennent pas à adopter des législations protectrices de la santé, ce principe est totalement ignoré. Ainsi, les pouvoirs publics paraissent incapables d'imposer des normes minimales de sécurité aux producteurs qui n'ont aucune obligation de prouver l'efficacité scientifique de leurs implants. De surcroît, à la violation du principe de bienfaisance s'ajoute la violation du principe de non-malfaisance consistant en une instrumentalisation des personnes. En effet, il ressort des éléments décrits que les industriels, désireux de pénétrer le marché américain, se servent du marché européen, et donc des patients, comme d'un laboratoire géant de tests in vivo. Alors que le droit européen n'exige aucun essai clinique à l'appui d'une demande de mise sur le marché d'implants, tel n'est pas le cas aux États-Unis. Aussi, pour satisfaire à ces exigences, certains industriels semblent tester leurs produits sur les patients européens, disposant donc ensuite des études nécessaires à leur commercialisation outre-Atlantique. Il s'agit bien d'une instrumentalisation d'un marché, sans aucun rapport avec les protocoles très encadrés des essais cliniques. Par ailleurs, cette affaire met en évidence les conflits d'intérêts, qui là encore portent atteinte à la santé des personnes. À titre d'exemple, si l'on comprend que ceux chargés de contrôler et garantir la qualité des dispositifs médicaux sont des entreprises commerciales et non des agences de santé, directement rémunérées par les demandeurs, l'absence de toute indépendance est flagrante. La santé des personnes passe au second plan. Finalement, dans les arbitrages, les intérêts commerciaux priment sur les exigences sanitaires. La transparence s'efface devant le secret des affaires. Alors que le principe de précaution exigerait de retirer certains implants du marché, comment comprendre que la ministre de la Santé s'y refuse, exigeant non d'avoir la preuve de leur innocuité, mais celle de leur dangerosité pour agir ?